Donc, il y a 5 ans, on recevait des ministères, c'était au mois de mai. Je travaillais, je recevais avec joie, mais il y avait quelque chose qui était pesant en moi, j'avais mal au sein droit. Oh, je dis, bon, ça va passer, ça va passer. Et je disais à ma famille, à mon mari, oh, j'ai mal, j'ai mal. Alors le mari dit, va faire une mammographie. Les enfants, va faire une mammographie. Les beaux-enfants, va faire une mammographie. Mais moi, je poussais la date. Une fois, je suis rentrée dans le bureau d'Antoine et comme un automate, parfois on fait des choses machinalement et on ne sait pas qu'elles sont même prophétiques au fait. Je rentre dans son bureau et vous savez, les dames, on reçoit tous les 2 ans un courrier de la Sécu pour aller faire un dépistage du cancer, tout ça. Et moi, je l'avais bien mis dans un coin. Mais ce jour-là, ben, je suis allée, j'ai pris cet imprimé et je regarde, bon, la validité est encore bonne, donc je peux prendre un rendez-vous. Et on sait très bien que les rendez-vous, on ne les a pas comme ça, hein. On ne les a pas. Et je téléphone et on me dit, voilà, ben vous avez un rendez-vous pour le surlendemain. Wow, c'est bizarre, hein, franchement bizarre. Donc je suis allée. J'y vais avec joie, sans arrière-pensée. J'étais certaine que bon, c'est un examen qui va se passer normalement. Et là, on me fait l'examen, ça fait mal, hein, les femmes connaissent ça, hein, ça fait mal, hein, ça prend le sein, ça te presse, ça te va jusqu'à la côte. Et quand tu as des petits seins, ben, franchement, c'est un examen pas agréable. Voilà. Et elle me dit, madame, bon, j'ai fait de la mammo, et puis elle me dit, restez torse nu. Ok, ok. Oh. Elle vient me chercher, la docteure. On va faire une échographie. Oh, d'accord, on va faire une échographie. Elle fait l'échographie, elle reste longtemps, et elle est là avec son gel, là. Blablabla. Et elle me dit, madame, vous avez une tache noire sur le sein gauche. Mais j'ai dit, madame, c'est le sein droit qui me fait mal. Non, elle dit, c'est le sein gauche. Il y a une tache sur le sein gauche. Petite tache. OK. Alors, nous allons faire une biopsie. OK. Donc, elle m'a prescrit un produit dans une seringue et tout ça. Voilà. Je l'ai eu rapidement. Je suis allée faire cette biopsie, ça fait mal aussi, hein, ça pique. Hein. Oh, on n'est pas... Et donc, elle me dit, dans 15 jours, vous recevrez les résultats. 15 jours se passent, je n'ai pas de résultats, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de résultats. Oh là là, j'attends la gynéco qui m'appelle, personne. Donc, je prends ma voiture... Et je file chez mon médecin généraliste. Seul. Aurélie et Antoine sont à la maison, sont restés à la maison. J'ai pris une décision ferme, je m'en vais chercher les résultats. Le généraliste me voit et me dit, madame, courez chez votre gynéco. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le cancer. Oh! Voilà, il aurait pu mettre des gants pour me l'annoncer. D'accord? Alors, tout de suite, il dit, je vous fais les papiers à 100%. OK. J'ai retenu mes larmes. J'ai pris ma voiture, sans larmes, comme un automate chez la gynéco. J'arrive. La gynéco n'est pas là. La secrétaire, venez, madame, demain à 8h. OK, OK. Et lorsque j'ai pris ma voiture après la gynéco, je suis tombée en larmes, je ne sais pas comment j'ai conduit jusqu'à la maison. Vous savez, qui connaît la source? Eh bien, j'étais là-bas, de la source à chez moi, j'ai roulé, j'ai conduit. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte et je dis, j'ai le cancer! Antoine, il s'est assis sur le petit fauteuil, il pleure. Aurélie, elle pleure. Et moi, je pleure. C'est une réaction humaine. On est des êtres humains. Et À un moment donné, encore une fois, quelque chose qui me prend comme ça, et je m'adresse à Aurélie. Aurélie, je vais encore te marier. Vous voyez, c'est des choses que, bon... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai marié Aurélie. Elle n'avait pas de gars. Il n'y avait pas de gars pour elle dans l'église. Et moi, je lui dis, Aurélie, je vais te marier. Et elle pleure. Et papa pleure. Et moi, je suis là et je proclame des paroles. Donc, à partir de ce, quand on est allé le lendemain chez la gynéco, elle m'a dit, oui, vous avez le cancer, il faut opérer tout de suite. Mais je dis, mais comment je vais faire, moi? Je ne connais personne, je ne connais pas de chirurgienne, je ne connais personne, moi, dans le corps médical. Oh, elle dit, j'ai deux chirurgiennes avec qui je travaille, ce sont très bonnes chirurgiennes, une à Tourcoing, une à Roubaix. Elle téléphone d'emblée à Tourcoing, elle n'est pas disponible. Elle téléphone à celle de Roubaix, tout de suite, un rendez-vous sur le lendemain. D'accord. On y va, elle nous explique tout. Et en voyant les photos, tout ça, elle me dit, bon, c'est soit l'opération, soit l'ablation. L'opération, ça veut dire qu'on enlève tout et vous gardez votre sein, ou je vous l'enlève. On se dit, est-ce qu'il y a un risque zéro? Ah non, non, il n'y a pas de risque zéro. D'accord. Donc, nous sommes repartis à la maison. Mais moi, j'ai un caractère fort. Je dis, pas de risque zéro. Eh bien, moi, j'enlève mon sein. C'est tout. J'en parle à Antoine. Bon, il dit, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Ouais, mais je dis quand même, c'est mon corps. Mais pendant ce temps-là, je reviens au spirituel. Il y a un chant qui m'a porté. Et je vais le lire. Réunis en ce lieu, rassemblés en ton nom, Dieu, nous t'invoquons. Alors ta gloire descend. Nos cœurs sont embrasés par ta vérité. Le sujet de nos chants, la raison de nos vies. Que les cieux se révèlent, nous voulons te voir. Que les écluses libèrent un torrent puissant, coulant de ton cœur qui envahit notre louange. Nous sommes dans ta présence, le visage rayonnant, les yeux fixés sur toi. Tu viens dans la nuée te mettre à nos côtés. Tu enlèves le voile. Et le pont, on aime bien les ponts dans les chants. Révèle, révèle-nous ta gloire, révèle, révèle ta puissance, révèle, révèle ta gloire, Seigneur. Et alors je chantais, révèle, révèle-nous ta gloire, révèle, révèle ta puissance, révèle, révèle ta gloire, Seigneur. Et pendant un mois, et pendant deux mois, je chantais, je faisais la louange, quand je faisais la louange, je pétais ce chant. Tu te rappelles, Sandy? Hein? On l'a chanté, ce chant. Mais ce chant m'a porté. Ce chant m'a porté. Alors, deuxième rendez-vous, on va chez la chirurgienne, elle prend toutes les mensurations et tout ça, et voilà, elle me prépare et je lui dis, bon, vous savez, moi, j'enlève. Vous m'enlevez le sein, vous me faites tout de suite la reconstitution, et mais elle se dit, c'est qui cette femme? Elle a dû se dire, elle n'est pas bien cette femme. Et elle me dit, mais madame, je ne peux pas faire ça comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? Ben, j'ai dit, mon mari ne me dit rien. Alors elle dit, ben, vous devez être d'accord tous les deux. Et elle nous réexplique. Et là, devant la chirurgienne, j'ai pris la décision, nous avons pris la décision de garder le sein et de faire l'opération. Donc, le 4 septembre 2014, Antoine me conduit à l'hôpital. C'était le 3. Le 3 septembre 2014, il me conduit à l'hôpital. Et je rentre dans cette chambre, me préparer. On a quand même la boule au ventre. Hein. Même si on est chrétien, hein, on a la boule au ventre. Hein. Moi, je vous l'assure. Hein. J'avais la boule au ventre, mais j'avais la paix. Et donc là, quand Antoine est parti, je me suis retrouvée seule. Ah, oh, c'est pas bien quand on se retrouve seule dans une chambre d'hôpital. Mais j'étais connectée. Pas connectée à la télé. On avait mis la télé, mais j'étais connectée avec mon iPad. Je pouvais envoyer des messages, je pouvais lire mes mails. Enfin, je m'occupais, j'écoutais de la louange. Mais c'était ce chant. Révèle, révèle-nous ta gloire, révèle ta puissance, révèle ta gloire, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, moi, dans cette chambre, je veux voir ta gloire. Ah, ah, je ne savais pas ce que je disais. Bon, bref. Et encore une chose que j'ai omise, c'est que quand on était chez la chirurgienne, je lui ai dit, vous savez, madame, je suis chrétienne, je crois à la guérison divine, donc il se peut que je sois guérie. Oui, madame. Mais comment vais-je le savoir? C'est vrai, moi je me posais la question, comment vais-je le savoir? Je n'avais pas de boule, hein, je vous assure, hein, je n'avais pas de boule au sein. Dans ma petite tête, je me disais, pour savoir, il faut faire des examens ou il faut ouvrir. Mais je préférais faire des examens avant d'être ouverte. Et quand on priait pour moi, la seule prophétie que plusieurs personnes m'ont donnée, c'est que Dieu était au contrôle de tout. Dieu est au contrôle, alors ferme ta bouche et avance. Ça voulait dire ça, hein, hein, Thierry? Moi, j'ai compris comme ça. Ferme ta bouche et avance. Loue Dieu, révèle ta gloire. Révèle, révèle-nous ta gloire. Révèle, et j'attendais. Donc, devant la chirurgienne, je dis, madame, voilà, je suis comme ça, comment je peux être guérie? Elle dit, oui, c'est vrai. Madame, est-ce qu'il y aura encore des examens avant l'opération? Elle me dit, non madame, tout est fait, tout est prêt. Il n'y aura pas d'autres examens. Vous arrivez, on vous prépare, vous allez en bloc, on vous opère, vous sortez et après vous rentrez à la maison. Moi j'ai demandé, Seigneur, révèle ta gloire dans cette chambre. Quand tu es rentré dans ma chambre. Et j'ai passé une très bonne nuit à l'hôpital. Très bonne nuit. Dans la paix, dans la joie. J'étais bien. Le lendemain matin, il y a une infirmière qui vient plus tôt que prévu. Et elle me dit, madame, préparez-vous. Mettez votre robe de chambre. On descend. Je dis, on va où? Elle dit, on va en dessous, là-bas. Tout en dessous, faire des examens. Je dis, il n'y a plus d'examens. Elle dit, si, il y a des examens. OK. Et nous sommes descendus, où il y a on fait la mammographie, la radiographie, l'échographie et tout le Bataclan. Là. Et on m'a fait une échographie. Et on me demande, madame, est-ce que vous êtes allergique à tel et tel produit? Oh, je dis, madame, je ne sais pas, je n'ai jamais été opérée. Alors, injectez le produit, on verra. Que voulez-vous que je dise? Je n'ai jamais été opérée. Et donc, c'était pour montrer, après sur l'écran, j'ai vu que ce produit mettait une couleur jaune sur leur écran. Et là, moi je suis curieuse, alors je voulais voir, hein, je voulais voir si j'étais guérie. Hein. Et là, quand elle me faisait l'échographie, tout ça, c'est comme si Dieu me disait, le cancer est là. Et j'ai vu la tache, j'ai vu la tache. Et là, j'ai capitulé, j'ai dit, oui Seigneur, je m'en vais pour l'opération. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en remontant, l'infirmière qui m'a descendue, qui m'a remontée, c'était une chrétienne. Cette infirmière allait à l'église du boulevard des Couteaux à Waterloo. Et le matin même, quand elle partait au travail, elle lui a dit, « Seigneur, révèle-moi ta gloire. Fasse que je puisse parler à quelqu'un aujourd'hui. » Moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Hein. Donc, elle me ramène dans ma chambre, elle dit, madame, vous vous préparez, oh, je vais vous donner le cachet pour l'anesthésie. Tata. Je dis, mais moi, je ne sais pas prendre de cachet. Et j'avais dit, encore une bonté de Dieu, j'avais dit à l'anesthésiste, donnez-moi une compote pour que je puisse mettre mon cachet dans la compote et je l'avale. Elle me dit, madame, C'est à jeun. Ah non, monsieur, une compote ou un fromage blanc? Et vous savez ce qui s'est passé? L'infirmière est arrivée avec une compote et le cachet. J'ai pris une cuillère, j'ai mis mon cachet dans la compote dans la cuillère, j'ai mis le cachet, je l'ai avalé. C'est pas un signe de Dieu tout ça? On doit aller à jeun pour une opération. Oh! Et pendant que je me prépare dans la salle de bain, je reviens et l'infirmière elle dit: Madame, vous n'êtes pas la femme du pasteur Nosek, Antoine? Ah, mais j'ai dit, qui êtes-vous, madame? Ah, elle dit, ben, je suis une chrétienne qui va à l'église du boulevard des Couteaux à Waterloo. Oh! Et là, je lui réponds, vous êtes ma gloire. J'ai demandé que la gloire de Dieu se manifeste dans cette chambre. J'ai eu les examens et j'ai eu une infirmière chrétienne qui m'a expliqué de A à Z comment va se passer l'opération, qui a prié pour moi. J'ai prié avec elle. J'ai pu tout sortir ce que j'avais dans mon cœur. Et franchement, je suis partie dans la paix. Je suis partie dans la paix. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a ouvert, elle a charcuté. Donc après, je me retrouve dans la... Je ne vous embête pas? Parce que je donne un peu de détails. Parce que pour moi, c'est important, les détails. Parce que dans chaque détail, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Ensuite, donc, j'étais en salle de réveil. Après la salle de réveil, on remonte dans la chambre. Donc, j'avais Antoine qui m'attendait, Virginie. Et la chirurgienne est venue. Et elle me raconte, madame, j'ai fait ça. Et j'ai raclé. Bah, bah, bah. Et elle me montre les gestes, mais elle me montre ça avec joie. Qu'elle a tout tiré le plus loin possible pour qu'il n'y ait pas de fuite. Ah, je sais bien. Eh bien, moi je ne m'y connais pas, hein. Mais je sais que pour moi le cancer était égal à la mort. C'était ça pour moi. Donc voilà, tout s'est bien passé. Et la nuit, elle me dit, bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous appelez les infirmières, elles sont là, on va vous donner des calmants, tout ça. Mais moi je ne suis pas cachée. Je n'ai pas envie de calmants. Je dis, Seigneur, ta gloire. À un moment donné, dans la nuit, j'ai des douleurs. Je pensais que j'allais partir. Ouh, ouh. Je dis, j'appelle pas l'infirmière. Non, non. Et j'ai crié à Dieu. Je n'ai pas crié verbalement parce qu'il y a d'autres patients qui sont autour, d'autres malades. Non, mais j'ai crié dans mon cœur, Seigneur. Jésus, viens, calme mes douleurs. Ouh. Et puis, je me suis endormie. Et je me suis réveillée, j'avais plus mal. Le meilleur calmant. Instantané. Peut-être pas trop instantané, mais voilà. Ensuite, ma seconde peur, c'était que je ne puisse plus lever le bras. Parce qu'on m'avait enlevé, on m'a enlevé là toutes les... Oh là, et moi j'aime bien louer le Seigneur. Je fais coucou Seigneur, je t'aime Seigneur. Et c'était au moment où il y avait l'inauguration de l'église d'Arras. Et donc je suis rentrée le samedi et le dimanche, c'était l'inauguration de l'église d'Arras. Et j'ai dit, je vais y aller, mais Seigneur, comment je vais te louer? Je ne sais pas comment je vais te louer, hein. Mais j'aimerais bien quand même lever le bras. Mais levez le bras, hein. Et alors, on commence les chants. Et vous savez quoi? Le bras s'est levé tout seul. Et j'avais pas mal. Et j'ai pu louer le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais ça. Et j'ai même pas fait de kiné. Parce que mes copines avec qui je fais du sport, ben elles ne font que kiné sur kiné. Et elles ont mal, et elles ont mal, et elles ont mal. Mais moi, je suis passée par les mains du chirurgien divin. Chirurgien divin. Ensuite, après l'opération, on te dit, voilà, Bon, j'ai pas eu de chimio. Ah, ça, j'étais heureuse. Franchement, j'étais heureuse. Pas de chimio. Mais vous allez faire de la radiothérapie. OK. Donc, je vais voir la madame, Madame Olzik à Mont-Saint-Barreul. Et voilà, elle me prépare aussi des mensurations ici et ça, Mais elle dit, bon, c'est un peu délicat parce que c'est le sein où il y a le cœur en dessous. Oh! C'est pas rassurant, hein, quand on ne se connaît pas dans la médecine, c'est pas rassurant. Et là, ben, je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire aussi. Hein. Donc, on rentre dans ces salles spéciales. On est tout seul et on a des gros appareils, là. Ça tourne et ça fait chut, chut. J'ai dit, Seigneur, mon cœur. Et vous savez qu'est-ce que je faisais pendant ces 5 minutes de radiothérapie? Eh bien, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger d'un seul millimètre. Donc, si je parlais, ça n'allait pas parce que je bouge la tête quand même. Donc, je priais en langue dans mon esprit. C'est 5 minutes, là, et bon, pas comme ça, hein. Mais je priais en langue, Seigneur, protège mon cœur, protège mon cœur. Il y a des personnes qui sont brûlées. Ça arrive que des 33 séances, j'ai fait. Je n'ai pas eu une seule brûlure. Le sein était tout légèrement rosé. Encore là, j'ai vu la grâce de Dieu. Et donc, j'arrive à ce dimanche-là où nous avons fait le truc. J'ai loué le Seigneur. Pendant tout le temps que j'étais malade, que j'avais ce cancer, qui avait, hein, j'étais là, présente. On a fait les travaux de la salle. Tu te rappelles, Fred? On a fait les travaux de la salle. On a mis en peinture. J'ai peint. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai éloigné de moi cette pensée, tu es malade, tu vas mourir. Et j'avais mon homme à chaque fois qui me regardait, il pleurait à la maison, il pleurait. Je l'ai jamais vu autant pleurer de sa vie. Mais il a pleuré. Alors j'ai dit oui, il avait quel âge à l'époque? Moi j'avais 62, donc lui il avait 66. Donc pendant 66 ans, il a peut-être pas assez pleuré. Et là, vous voyez, pendant un mois, il n'a fait que pleurer. Il a complètement changé. Mais nous avons vu la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, après la radiothérapie, la madame radiothérapeute, elle me dit, bon, vous avez un cachet à prendre pendant 5 ans. C'est long, 5 ans, hein? Et comme je suis rentrée dans le protocole, il y a certaines personnes qui me disaient, oh bah, tu ne prends pas. Il y en a d'autres qui me disaient, tu es guérie, tu écrases le cachet. Et moi, je me suis dit, j'ai commencé avec la médecine, je vais terminer avec la médecine. Parce que dans le fond de mon cœur, je savais que j'étais guérie. Mais comme j'ai commencé avec la médecine, je veux être sérieuse. Donc, j'ai été jusqu'au bout. Et là, elle m'a dit, la radiothérapeute, le 30 novembre 2019, vous arrêtez vos cachets. Vous savez, le 30 novembre, j'ai pris le cachet avec ma compote toujours. Mais c'était libérateur. Libérateur. Et je suis allée jeudi voir cette madame, docteur. Et elle me dit, comment ça va? Très bien, j'ai fait comme vous m'avez dit. Le 30 novembre, j'ai pris mon dernier cachet. C'est bon, je suis libre. Ah, je vais vous ausculter. Elle m'ausculte, tout ça. Tout va bien, madame. Mais moi, je voulais entendre quelque chose d'autre. Je voulais entendre, vous êtes guérie. Oh, mais le corps médical ne va pas vous dire ça comme ça. Elle m'a dit, madame, tout va bien. Chaque année, maintenant, vous faites une mammographie. Et vous, on est là éventuellement s'il y avait des problèmes. Et elle me souhaite bonne continuation. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis libre. Et vous savez, inconsciemment, pendant ces 5 ans, je prenais le cachet, mais c'est comme s'il y avait quand même un joug sur moi. J'étais heureuse, tout ça, mais il y avait un joug. Et là, quand je suis allée, elle m'a dit, vous allez bien? On est passé par le secrétariat et la secrétaire, elle regarde le docteur et elle dit, bah, qu'est-ce que je fais? La docteure, elle n'a même pas eu le temps de répondre. J'ai dit, bah, c'est terminé. C'est terminé. Et la secrétaire a sourire comme ça. Elle dit, mais madame, vous l'avez dit avant le docteur. Ah ben, j'ai dit, oui, c'est terminé. Alors, bonne continuation, bonne fête de fin d'année, bon Noël. Et voilà. Et moi, je rends grâce à Dieu. Parce que au début, c'était dur, mais la fidélité, notre assurance, elle est là-haut. Et j'ai su supporter cette maladie, parce que vous savez, les cachets, ils ont des effets secondaires. Et maintenant, je suis avec, je fais de l'aquagym, l'aquabike, avec des femmes qui ont le même problème. Et quand je les écoute, et ben j'ai dit, Seigneur, c'est ta grâce qui a fait que je n'ai pas eu toutes ces complications qu'elles ont eues. Mais le problème, c'est qu'elles parlent tant que moi, je ne peux pas en placer une. Alors, je dis, Seigneur, mais quand je pourrais témoigner de toi à ces dames pour leur dire qu'il n'y a pas que les médecins qui sont là, mais il y a le médecin céleste qui est là. Voyez ? Alors, j'attends le temps. Maintenant, je suis en réflexion. Est-ce que je vais continuer ou pas ? Donc, je suis en réflexion. Là, je vais finir mon semestre et après, je verrai. Mais qui sait si Dieu ne m'a pas placé là aussi pour être un témoin vivant d'un miracle ? Parce que pour moi, c'est un miracle et pour moi, c'est la gloire de Dieu. J'ai réclamé la gloire de Dieu et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et dans mes 67 années de vie, je pourrais vous raconter plein de gloires de Dieu. Mais je me suis concentrée sur ce témoignage parce que je voulais, ensemble avec vous, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie.
Magnifique, vous avez vu, donc voilà, je vais raccourcir mon intervention. J'ai dit à Christiane, s'il me reste 10 minutes, c'est bon, s'il me reste 1 heure, c'est bon, on va... Voilà, tu fais ce que tu veux. C'était son cœur quand elle m'a demandé de faire ce culte de cette façon-là. Moi, j'ai dit, vas-y, on a assez pleuré ensemble, c'est vrai. Et voilà, vous avez vu, c'est une épreuve parmi les autres. Vous savez que quelques mois après, moi, mon cœur a lâché aussi. On va parler de ça peut-être une autre fois, ça sera aussi 5 ans. Voilà, j'étais suivi, là ça se termine bientôt. Et puis voilà, donc on est toujours là, et ça c'est formidable, c'est Dieu. Mais aussi vos prières, pour ceux qui étaient là à l'époque. Alors donc, on a déjà parlé, nous avons déjà parlé plusieurs fois de la gloire de Dieu. Et Christiane, elle a mentionné à plusieurs reprises ce matin aussi, voilà la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu fait quelque chose, c'est ça la gloire de Dieu. Et je vais continuer donc sur la gloire de Dieu, je vais un peu raccourcir. Donc tout de suite, on va prendre un passage dans la parole de Dieu qui nous parle de la gloire de Dieu. Exode 24, et les versets 15 à 18. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée, la montagne. La gloire de l'Éternel. On a parlé de la gloire. Vous voyez, déjà longtemps avant Jésus, la gloire de l'Éternel, pendant Moïse. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée les recouvrit pendant 6 jours, les 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Regardez bien, on va se concentrer sur ce verset-là qui arrive. La gloire de l'Éternel avait l'apparence, ou dans d'autres traductions nous dit l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux d'Israël, des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne et il resta 40 jours et 40 nuits. Alors, on va reprendre le verset avant. Voilà. La gloire de l'Éternel avait l'apparence ou l'aspect d'un feu dévorant. Alors, quand on pense au feu dévorant, des feux dévorants, vous avez vu déjà plusieurs reprises dans les infos, quand on parle de voilà, comme même les forêts, ça brûle. Et puis, c'est impressionnant qu'on voyait le feu dévorant, hein, qui avance et qui dévore les arbres, les maisons et tout ce qui se trouve sur son passage, le feu dévorant. Alors, voyez le feu dévorant. Imaginez-vous, là, maintenant, un peu le feu dévorant. Alors, donc, la gloire de Dieu était comme, enfin, l'aspect de cette gloire de Dieu, c'était comme un feu dévorant. C'était quelque chose, voilà, extraordinaire. Mais en même temps, le feu, voilà, n'est pas toujours agréable. Hein. Donc, quand on pense à un feu dévorant, quand vous voyez le feu, ça produit quoi ? La lumière, avant tout. Hein. Vous voyez la lumière ? Ça éclaire, c'est bon ? La lumière. Ensuite, produit la chaleur. C'est bon ? Le feu. Hein. Ça produit la chaleur. Plus le feu est important, voilà, plus la chaleur se répand, plus on plus loin. Et vous sentez la chaleur, et puis ensuite, voilà, ça brûle. La chaleur, et quoi ? Il y a aussi la puissance. Quand vous voyez un feu où on n'arrive même pas à maîtriser, on est bien d'accord, il y a une puissance. On peut dire une puissance consommatrice, d'accord, une puissance. Et ça détruit, ça brûle, ça chauffe, d'accord. Donc il y a une puissance consommatrice, destructrice, mais aussi purificatrice. Parce que dans les domaines spirituels, vous savez que nous, notre foi, hein, vous avez entendu le témoignage de Christian, et c'est un témoignage, une preuve parmi beaucoup d'autres. On a aussi perdu un enfant. Voilà, on a été secoué dans notre vie tellement, et puis toutes ces épreuves ont quelque part éprouvé notre foi. Notre foi a été éprouvée. Et ce sont des choses personnelles. Voilà. Ce qu'elle a vécu, moi, je n'ai pas pu vivre. Vous comprenez ? C'était elle. Moi, j'étais à côté. J'ai pleuré parce que ça me dépassait. Oui, c'est vrai. Et puis moi, quand j'avais aussi mes problèmes, elle était à côté de moi. Donc, il y a des choses personnelles. Et au niveau de la foi, la même chose. Notre foi est éprouvée comme l'or, comme le métal dans le feu. Voilà, notre foi passe... La foi, notre vie est éprouvée dans un feu dévorant et tout ce qui est impur, voilà, est complètement détruit et ce qui est pur, c'est de l'or. C'est comme de l'or, vous êtes comme de l'or. Si vous laissez éprouver par les feux, ben vous devenez comme de l'or pur. Ça va, ça vous va ? Allô ? Voilà, donc vous voyez les aspects de la gloire de Dieu. Ensuite, j'y reviens sur un verset que nous avons déjà vu ensemble, l'Exode 33, et le verset 18. Je voulais juste vous montrer, voilà, Moïse a vu là, partiellement la gloire de Dieu. Voilà, plusieurs reprises. Donc, ce verset-là, nous avons vu ensemble. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Fais-moi voir de ta gloire. On avait vu ça la dernière fois. Donc vous voyez Moïse qui avait le dialogue avec Dieu. D'accord ? Il parlait avec Dieu. Il avait la foi en Dieu. Amen. Il croyait que Dieu était son père. Il croyait à tout ce que Dieu lui a dit. Il a obéi quand Dieu s'est tourné vers Moïse pour lui dire, viens, je vais me servir de toi, et c'est toi qui va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, de l'esclavage. Et il a dit, oui, oui, j'y vais. Et il a travaillé avec Dieu. Et puis le fait qu'il était fidèle à Dieu, eh ben voilà, il s'est permis de lui dire, fais-moi donc voir ta gloire. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça va, Johan? Tu me suis, là? C'est bon, je vois que tu es avec moi. Il s'est permis. Oh là là, un petit bonhomme, Moïse, voilà. Il s'adresse à Dieu pour lui dire, fais-moi voir ta gloire. Si tu veux que j'aille plus loin avec toi, ah ben, je vais voir quelque chose de plus. Est-ce qu'il a vu la gloire de Dieu? Oui, il a vu la gloire de Dieu, partiellement. Partiellement. Tu ne peux pas vraiment voir. C'est tellement fort, tellement puissant. Imaginez-vous, vous avez un feu dévorant devant vous, et vous vous approchez, ben vous êtes complètement, en quelques secondes, on peut être consumé. On est bien d'accord? Voilà, donc, partiellement, on voit la gloire de Dieu. Donc, il s'est permis de se tourner vers Dieu pour lui dire, fais-moi voir ta gloire. D'accord? Donc, il avait la foi. Et ensuite, il a assisté. Dieu, tu vois, pour aller plus loin, je veux avoir d'autres... J'aimerais avoir des expériences pour que je puisse parler à ce peuple, à ces gens que je dois conduire. Vous comprenez? Il a assisté. Il a assisté. Voilà, il persévérait, il s'est tourné vers Dieu. Voilà, ça ne s'est pas fait comme ça tout seul. Mais il y avait tout un travail qui était fait. La consécration, la foi. Voilà, là, il a développé une relation personnelle de Dieu. Vous savez, la question du royaume de Dieu, ce n'est pas la question de la religion. C'est une question d'une relation personnelle. Avec qui? Avec notre Père, Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce n'est pas la question, je répète, d'une église, d'une religion, mais je me répète, d'une relation personnelle, j'ajoute, intime, avec Dieu Tout-Puissant. Et Moïse avait une relation intime, relation personnelle avec Dieu. À l'époque, il n'y avait pas Jésus. Oh, on a parlé de ça. Il n'y avait pas Jésus. Et Moïse ne pouvait pas aller vers Dieu, le Père, par la foi en Jésus-Christ. Mais il allait directement. Et c'était beaucoup plus difficile. Il y avait une puissance. Vous avez vu comment Dieu se présentait aujourd'hui pour nous. Nous avons aussi l'accès vers Dieu Tout-Puissant, mais par la foi en qui? En Jésus-Christ. Amen. C'est fort, hein? Très bien. Donc, n'oubliez pas voilà la façon par laquelle Moïse se tournait vers Dieu. Il a dialogué avec lui, il avait la foi, il voulait vraiment, vraiment voir le maximum de la présence de Dieu. Alors, on va aller dans les Nouveaux Testaments. Les Nouveaux Testaments... les Actes des Apôtres, chapitre 2. Voilà, je galope un peu pour gagner du temps. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Qui? Il y avait combien de personnes? 120 personnes. Voilà, les disciples, la famille, les amis. Il y avait 120 personnes qui attendait à Jérusalem la promesse. De qui? La promesse de Jésus. D'accord. Quand les jours, voilà, tout à coup, il y vient du ciel, donc ils attendent. Oui, ils ont obéi, ils ont cru. Amen. Ils ont dit, Jésus nous a laissé la promesse, il y a quelque chose qui doit se passer. C'était vraiment un inconnu pour eux, ils ne savaient pas. Une promesse. Une puissance. Voilà. Donc ils attendaient, ils obéissaient, ils ont développé une relation personnelle aussi. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et tout à coup, il vient du ciel à bruit comme un. C'est lui, à bruit. Donc Quand on pense au feu dévorant, il y a aussi le bruit, il y a tout ça, c'est éclatant. Hein. Comme celui d'un vent violent. Voilà, vous voyez, il y a une puissance qui passe, il y a quelque chose qui se passe. Qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient 120 personnes. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe là. Il y a une présence de Dieu qui se manifeste, la promesse de Dieu. Et voilà le résultat. Vous voyez ce qui se passe? Des langues qui semblaient de feu, leur apparurent. Le feu, comme le feu, d'accord? De feu leur apparurent. Séparés les uns des autres. C'était distinct. Elles se posèrent sur quelques-uns. Vous ne réagissez pas? Comment? Ah, je lis mal, hein? Et elles se posèrent sur chacun d'eux, tous. Pas juste quelques-uns. C'est bon, je me suis trompé. Tous. Le feu du ciel est descendu par le Saint-Esprit. Dieu montre sa gloire. Le jour de la Pentecôte à ses disciples, à ses 120 personnes. Mais par la foi en Jésus-Christ, à la suite de la recommandation de Jésus-Christ. On avait l'accès, là on a l'accès, par Jésus vers Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste, par Jésus, d'une façon ou d'une autre. On fait toujours quelque chose qui se passe partiellement. Partiellement. Alors vous allez voir ce qui s'est passé donc un peu plus tard. Voilà, ils ont été remplis du Saint-Esprit, il y a des choses qui se sont passées. Magnifique, ils étaient remplis de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit lui-même hein, qui est descendu. Et puis donc les Actes des Apôtres chapitre 4 et le verset 29. Donc voilà, il y a des belles choses qui se sont passées dans les contextes avant. Et puis tout à coup, il y a la persécution qui arrive, il y a les religieux, tous ces traditionnels, tous ces gens là, voilà, qui représentaient la religion, etc. Voilà, ils étaient contre de ce qui se passait. Vous voyez, ils étaient contre. Il y avait des menaces même. Ils voulaient vraiment interdire parler de Jésus. Et puis voilà. Mais attention, parce que les disciples, ils ont été remplis d'une puissance, d'un feu dévorant, du Saint-Esprit. Voilà. De Dieu lui-même. Alors là, on ne rigole pas. Les oppositions sont là, mais quand il y a le feu de Dieu, feu dévorant, il détruit toutes les oppositions, toutes les puissances des ténèbres. Alors voilà, comme Moïse, Seigneur, fais-moi montrer cette roi, ta présence. Là, les disciples disent, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Et plus loin, déploie ta puissance. Dans d'autres traductions, on nous dit étends ta main. Ici, déploie ta puissance pour qu'il se produise quoi? Des guérisons, des signes, miracles, des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Jésus est là, pas directement à Dieu où ça tremble, où il y a une telle puissance. Ah ben, Dieu envoyait son Fils qui est notre médiateur, il n'y a que lui, qui est notre avocat. Est-ce que vous êtes, c'est clair pour vous? C'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui a payé le prix pour nous, et c'est par Jésus-Christ, le serviteur de Dieu, mais aussi prophète, fils de Dieu, Dieu lui-même, voilà. Mais Dieu lui-même, il s'est présenté sur cette terre comme un homme, toi et moi. D'accord? Donc, je répète, étends ta main, ou déploie ta puissance surnaturelle, pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges, par les noms de ton saint serviteur, Jésus-Christ. C'est formidable. Par la foi. En Jésus-Christ, toi et moi, nous recevons le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu, par la foi en Jésus-Christ, tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est pour tout le monde, vous avez entendu. Hein? Pour tous. Pour tous, le feu du Saint-Esprit. Pour tous. C'est une grâce. Et si le Saint-Esprit est en nous, il est comme un feu dévorant pour affronter les oppositions. Les oppositions. Les difficultés, les combats, les péchés. Amen. Qui veulent nous détruire. Voilà. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire à Dieu, Dieu, fais-moi montrer ta gloire. Dieu, tu vois ma famille. Tu vois mon mari. Tu vois ma famille, ma femme. Tu vois mes enfants. Alors j'ai besoin que mon mari se donne à toi. Que mon épouse se donne à toi. Que mes enfants se donnent à toi. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la même façon. Dieu, montre-moi ta gloire. Pour ma famille, pour mes amis, pour ma rue, pour ma ville, pour mon pays, pour les autorités dans mon pays. La Bible nous dit, priez pour les autorités. On les juge facilement. Regardez ce qui se passe actuellement en France. Combien de fois on les juge, on n'est pas content. Moi-même, quelquefois, je dis, tais-toi, prie plutôt que... Tais-toi. Prie pour eux. Alors, de la même façon comme Moïse, de la même façon que l'Église primitive qui s'est tournée vers Dieu, nous pouvons se tourner vers Dieu pour lui dire, pour parler avec lui. Dieu, voilà, et assister, croire. Ce matin, Antonia nous a encouragé à prier à la réunion de prière avant le culte, prier pour la foi, pour l'espoir, l'espérance. C'est ça, Antonia. Hein. Elle a senti que ça... Un peu la foi baissait un peu, hein, c'est ça. C'est un peu endormi, à les fêtes et à tout. On court à droite, à gauche, et la foi compatit un petit peu. Donc, moi, j'étais heureux, une jeune qui m'encourage à prier pour la foi. C'est bon, formidable. Voilà, vous voyez, donc, nous pouvons aussi, de la même façon que Moïse, que l'Église primitive se tourne vers Dieu. Alors, hier soir, nous étions en famille, c'est vrai. Marine, elle avait 20 ans, hier soir, hier. Et Marine est là, lève-toi, Marine. C'est elle, Marine. Voilà, on était tous là, c'est normal, on veut l'encourager, 20 ans. Et, 20 ans, et. Et c'était formidable de voir la première petite fille, Et là, mais en même temps, elle a la foi. Elle recevait des encouragements prophétiques. Voilà, je me suis dit, mais est-ce que j'ai la foi pour dire quelque chose un petit peu encore mieux? Parce que je suis quand même grand-père. Voilà, je vois la gloire de Dieu de génération en génération. Parce que mon objectif, c'était ça. Seigneur, c'est ma femme, mon couple, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. Et puis, je vois Marine qui est là, elle a la foi. Ah ben, c'est la gloire de Dieu. Elle est responsable de jeunes à Waterloo, à la source. Et ce matin, elles sont là pour soutenir la grand-mère. Voilà la gloire de Dieu, aussi dans la famille. Vous savez, dans ma famille, nous étions à 8. Les 8, tous, au Seigneur. Il y en a, le premier est déjà décédé. Il était jeune, il avait 56 ans. Il est parti. Et ils sont tous engagés. Ils sont tous en Pologne. Je suis tout seul ici en France. La famille de Christian est en France, française. Et puis moi, c'est là-bas, l'Est. Et puis voilà, donc, je pense à la famille. Et puis parmi mes neveux et puis mes nièces, donc il y en a aussi un paquet là-bas, ils sont peut-être une trentaine aussi, comme nous ici. Et il y a trois problèmes dans cette génération. Il y a un neveu, voilà, il est séparé, il a divorcé. Bon, il reste croyant, etc., mais voilà, cette destruction les poursuit. Une nièce aussi, la fille de mon frère qui est déjà décédé longtemps, elle a divorcé aussi. Et puis, il y en a encore un, c'est une séparation. Et moi, j'ai toujours dit à ma famille, quand je suis, après le départ de mon frère, c'est moi qui est le plus âgé dans la famille, puis au Pologne, c'est un peu dans la culture comme ça que c'est lui qui est le plus âgé et un peu l'autorité. On a quelque chose à dire à la famille. Bon, maintenant, pas grand-chose, ça change. Mais bon, quand j'arrive là-bas, ben, il m'écoute quand même un petit peu. J'arrive là, c'est Antoine, c'est... Et j'ai dit, écoutez, on ne doit pas permettre que quelqu'un dans cette génération soit perdu, aille à l'enfer. Nous refusons ça. Et c'est à nous prier, se mobiliser dans la prière au lieu de juger les uns les autres. Vous savez, dans des grandes familles, il y a tellement d'histoires partout. Pour ça, moi, je fais travail tout ça pour que ici, dans la famille, ils restent vraiment unis. On est tous différents, c'est normal, complémentaires. Et puis voilà, ça a duré. J'ai prié pour mon neveu aussi. J'ai proclamé la victoire, ça allait mieux. Par téléphone, j'ai prié. Et tout à coup, ici, j'ai fait le tour un petit peu dans la famille par téléphone. Et puis voilà, on m'annonce les bonnes nouvelles. Ah, tu sais, elle, c'est bon, il est à nouveau. Donc, ils étaient divorcés. Et puis voilà, à nouveau, ils se retrouvent et ils font se remarier. Quelle gloire de Dieu! Quel miracle! Satan les tire vers le bas, vers l'enfer, et nous avons empêché. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième, la même chose, je ne rentre pas dans l'état de détail. Troisième, la même chose. En même temps, les trois couples se réunissent ensemble et je vais aller là-bas les bénir. Parce qu'administrativement, ils sont divorcés. Hein. On va détruire le divorce. On va détruire les papiers. On a la victoire. C'est la gloire de Dieu dans la famille. Ça va? Voilà. Formidable. Alors, vous avez, ce qui, vous voyez, vous avez vu ce que... Je pense que je n'ai même pas lu ce verset qui disait « Quand l'Église primitive priait, c'est la dernière... » Voilà. « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. » Voyez la puissance. Voyez le feu dévorant. Voyez un Dieu puissant qui agit. On ne va pas nous arrêter de prêcher l'évangile. Alors Dieu secoue un peu même l'endroit, d'accord? L'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Bien fait pour eux. Touchez pas l'œuvre de Dieu. Ils furent tous. 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 Toi et moi, vous et moi, si c'était aujourd'hui, tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu comme ça. Nous avons un Dieu comme ça, tout puissant, il y a des changements. On vous a parlé de la famille. Vous savez, une fois, on a fait quelque chose aussi, c'était à la source déjà longtemps. Puis à la fin du culte, une chère dame qui était vraiment avec nous, nous a accompagnés pour implanter l'église ici. Elle vit plus aujourd'hui. Elle est partie déjà au ciel. Puis elle est venue me voir. Elle nous aimait beaucoup. Et elle est venue me voir et dit, Antoine, ben, c'est bien pour toi parce que tu vois, ben, toi, c'est bien, c'est facile pour toi, hein. Tu vois, tu as tes enfants avec toi, tu as ta femme, elle, voilà. Ils sont tous croyants. Ben, c'est facile de prêcher comme ça. Mais moi, voilà, mon mari m'a jeté. Voilà. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ah ben, mes enfants, mes deux fils, ben, sont partis avec le père. Et puis voilà, moi, quand je t'écoute, ben, moi, je suis plutôt découragé. Elle a pleuré. Et là, je lui ai dit, écoute, ça c'est mon témoignage. Ben, réjouis-toi de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et moi, je te rejoins dans tes prières pour ton mari, pour ton ex-mari, pour tes deux fils, pour toi. On est ensemble. Mais tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Toi et moi, Christiane l'a dit, nous avons tous le même Père. Amen.